Vous êtes sur RTL.
C'est le jour de grand départ.
Oui, 800 000 voyageurs sont attendus aujourd'hui dans les gares. Dernière journée un peu stressante avant de pouvoir profiter des vacances. On va aller prendre la température. Gare de Lyon, retrouver Raphaël Vantard en direct. Raphaël, d'abord, est-ce qu'il y a déjà du monde? Et comment vont les voyageurs que vous avez croisés ce matin?
Il y a énormément d'excitation dans ce hall de la gare de Lyon. Beaucoup d'enfants, de familles qui poussent de grosses valises. Comme avant, le sourire pour les chanceux vacanciers. Et là, seul changement, il est dissimulé sous des masques de toutes les couleurs. Masque Winnie l'ourson pour Anthony et sa fille Iliana.
C'est le grand départ, on emmène les deux petites chez les grands-parents. Et elles vont profiter de l'air du Jura avec leurs cousins-cousines.
Je vais faire de la luge.
De la luge ?
Je vais faire du ski.
Ouais, du ski d'été. Avec tes cousins-cousines, tu vas faire quoi ?
On va dormir ensemble et on va faire l'anniversaire de Mila.
Voilà, beau programme. Bon courage quand même aux grands-parents. Bon courage aussi aux agents SNCF très sollicités ce matin. Alain Krakowicz, le directeur général SNCF Voyage, est lui aussi sur le pont.
On sent, malgré le masque, que les gens ont le sourire, ça se voit avec les yeux. C'est important de montrer qu'on accompagne les familles. La restauration ouvre aujourd'hui, de nouveau. Donc là, on est vraiment dans une configuration normale.
Configuration normale, voyage en train presque normal. Et cette question normale aussi à laquelle beaucoup de parents vont devoir bientôt répondre, quand est-ce qu'on arrive?
Merci beaucoup Raphaël Vantard.
Pas mal
le masque Winnie l'ourson. En direct donc de la gare de Lyon, il y aura également du monde sur les routes. La journée est classée orange par Bison Futé dans le sens des départs partout en France.
La politique à présent, Olivier, et les Français qui vont apprendre à connaître Jean Castex, nommé à Matignon.
Oui, un quasi inconnu nommé Premier ministre, un peu à la surprise générale. Il est venu hier soir se présenter justement aux Français en quelques mots aux 20h de TF1. Homme de droite, gaulliste social selon les mots qu'il a employé. Et voilà ce qu'il a répondu à ceux qui l'imaginent déjà, faute de poids politique, dans l'ombre d'Emmanuel Macron.
Je ne suis pas ici pour chercher la lumière, je suis ici pour chercher des résultats. La seule chose qui m'intéresse, c'est de travailler le mieux possible pour mon pays et pour mes concitoyens. Je n'étais pas jusqu'à aujourd'hui un homme politique national. Je suis un homme politique enraciné dans mon territoire. Je suis un homme politique local. Je suis un homme politique de la vie quotidienne des gens. Et cela me rend très fier.
Jean Castex, qui ne cherche pas la lumière, mais qui va devoir tout de même s'imposer. Et ça commence par le choix de ses ministres. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Service politique d'RTL, précisément sur le casting, sur la question aussi du poids politique de Jean Castex. Est-ce qu'il aura son mot à dire ?
Eh bien, c'est vrai que Jean Castex assume, il est un homme de l'ombre, et ça tombe bien, Emmanuel Macron l'a aussi, et peut-être surtout choisi pour ça, plus que jamais. C'est lui le patron, c'est lui le chef de l'État qui veut assumer tous les choix, toutes les orientations, toutes les responsabilités. Alors bien sûr, il va y avoir des consultations ce week-end entre les deux hommes, mais clairement, le casting du nouveau gouvernement portera avant tout la marque du président, avec sûrement quelques figures à la tête de super ministères, économie, écologie, éducation, entouré de secrétaires d'État au rôle beaucoup plus technique. Jean Castex, lui, sera le chef d'équipe. Ne vous inquiétez pas, il a du caractère et il va vous surprendre, assure-t-on au sein de la majorité. Le nouveau Premier ministre a dit vouloir tout boucler dès ce week-end, mais il y a toujours beaucoup de tractations, beaucoup de vérifications jusqu'à la dernière minute. Ça pourrait nous emmener jusqu'à lundi ou jusqu'à mardi.
Alors, en attendant le casting qui lui reste incertain, la feuille de route, en revanche, elle est à la fois claire et vaste. Organiser la relance économique, William ?
Oui, les plans sociaux qui pleuvent déjà sur le pays, mais aussi l'écologie, la réforme des retraites laissée en suspens, la santé avec le plan pour l'hôpital, le défi est colossal. Hier soir, aux 20h, Jean Castex est resté assez flou. Il a seulement indiqué qu'il voulait, lui, l'élu local, faire confiance aux territoires et aux partenaires sociaux. Il va devoir en dire plus en prononçant son discours de politique générale à l'Assemblée. Ce sera au milieu de la semaine prochaine.
Merci beaucoup William Galibert du service politique d'RTL. Vous évoquiez les plans sociaux. On a appris hier que le groupe Mercedes envisageait de fermer l'usine Smart en Moselle avec 1600 salariés. On comprend mieux effectivement les derniers mots hier d'Edouard Philippe. Soyez bon, voilà ce qu'il lui a dit au moment de la passation de pouvoir avant d'être lui ovationné par ses collaborateurs dans la cour de Matignon.
Alors justement, Edouard Philippe, il est déjà dans sa vie d'après. Olivier, il est de retour au Havre dès ce matin.
Oui, il va redevenir maire officiellement de la ville demain. Mais dès ce matin, effectivement, première apparition publique post-Matignon, il assistera aux funérailles d'un sénateur, Julien Caillard. Bernard.
Oui, Édouard Philippe attendu dans un peu moins d'une heure à Sainte-Adresse, juste à côté du Havre, pour assister aux obsèques du sénateur Patrice Gélard, une figure de la droite locale. Édouard Philippe qui sera aux côtés de Gérard Larcher ou encore de Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. L'ex-premier ministre qui pourra ensuite retrouver sa ville où désormais bon nombre d'habitants l'attendent avec impatience.
Contente de le revoir. Je ne suis pas contente, je suis très contente. On s'est dit, ils vont nous le tuer, notre Édouard Philippe. Il revient, on est content. Toujours ça de prix.
Toujours ça de prix, même si les Havrais savent qu'Édouard Philippe ne va pas se contenter de gérer la ville. Emmanuel Macron lui a confié une mission, réorganiser la majorité, la consolider en vue de 2022. Ici, de toute façon, beaucoup l'assurent, le destin d'Édouard Philippe est national et Matignon n'était pour lui qu'une étape.
J'imagine que ça, c'est un tremplin, qu'il a autre chose derrière.
Demain, il va revenir pour les présidentielles. Je pense non seulement il est capable, mais les gens l'aiment bien.
Et en attendant, c'est d'abord le fauteuil de maire du Havre qu'Édouard Philippe retrouvera demain matin.
Merci beaucoup Julien Caillard, envoyé spécial d'RTL au Havre.
Dans un instant, direction Marseille, les municipales, situation totalement confuse. La gauche a la majorité, pourtant personne ne sait qui va devenir maire. A tout de suite.
RTL Matin.
RTL Matin.
Dominique Tenza.
On va partir, Olivier, maintenant à Marseille. Qui va devenir maire de la ville ? Eh bien, c'est toujours aussi incertain.
Oui, alors que le conseil municipal décisif commence dans une demi-heure, moins d'une demi-heure maintenant. On rappelle l'équation, l'union de la gauche est arrivée en tête, mais sans décrocher la majorité absolue. On ne sait toujours pas ce qu'a décidé de faire Samia Ghali. Le poste de première adjointe qu'elle réclamait pour rallier la gauche lui a été refusé pour l'instant. On ne sait pas non plus ce que vont faire les élus du Rassemblement National. Bref, c'est la confusion la plus totale. Hugo Hamelin, vous allez suivre le vote. Vous êtes d'ailleurs à l'hôtel de ville où l'ambiance est particulièrement électrique depuis ce matin.
Oui, absolument. Environ 400 sympathisants du printemps marseillais devant l'entrée de l'hôtel de ville pour ne pas se faire voler leur vote, comme ils disent. Ils sont en train d'agiter les clés, là. Vous les entendez ? C'est pour réclamer les clés de l'hôtel de ville puisque Michel Rubirola avait 13 000 voix d'avance au second tour. Le Rassemblement National, comme Samia Ghali, malgré leur faible score, peuvent faire basculer la majorité d'un côté comme de l'autre. On rappelle que le vote pour le fauteuil du maire se fait à bulletin secret et en trois tours avec 101 conseillers municipaux. On n'est donc pas du tout au bout de nos surprises ici à Marseille.
Merci beaucoup Hugo Hamelin en direct de l'hôtel de ville, donc l'issue tout à fait incertaine. En bref, on apprend ce matin que la petite amie du fils de Donald Trump a été testée positive au coronavirus. Elle était d'ailleurs avec le président hier au Mont Rushmore où il a prononcé un discours public. Selon le New York Times, elle va bien. Elle fait en fait partie des 57 000 personnes testées positives en une seule journée hier. C'est un record. L'épidémie semble à nouveau, au moins dans les États du Sud, totalement hors de contrôle.
9h09 sur RTL. Laetitia et Laura ont enfin trouvé un accord sur l'héritage de Johnny Hallyday.
Oui, les deux femmes enterrent la hache de guerre pour clore ainsi un feuilleton pénible de 2 ans et demi au cours desquels les clans se sont déchirés en public, Alice Moreno.
Oui, c'est un accord qui a valeur de traité de paix trouvé à l'issue de plusieurs mois de tractations entre Laura Smet et Laetitia Hallyday. C'est d'ailleurs la veuve de Johnny qui aurait initié les discussions selon son avocat Gilles Gower.
Nous étions dans une situation qui n'était pas acceptable en mémoire de Johnny, qui ne respectait pas ce que Johnny pouvait légitimement vouloir, la paix au sein de la famille. Et Laetitia a su faire preuve de résilience, de recul, de réflexion, de sagesse pour ne pas tomber dans ce contentieux, dans l'agressivité.
Les conseils de Laura se refusent à tout commentaire. David Hallyday, lui, n'est pas concerné par cet accord, mais cette entente signe bien la fin de la tourmente pour toute la famille, selon son avocat Pierre-Jean Douvier.
Nous désisterons de toutes les actions. Ce que nous voulions, c'est un arrêt des actions judiciaires. Et comme on voit que l'accord est arrivé, ben on est dans la sérénité. Donc maintenant, on peut regarder l'avenir tranquillement.
David renonce donc à sa part d'héritage. La somme versée à Laura demeure confidentielle.
Merci Alice Moreno du service police-justice d'RTL.
On termine avec le foot, Olivier. Le torchon brûle entre les Girondins de Bordeaux et le nouveau maire de la ville.
Pierre Urmic, le nouveau maire écolo, qui a parlé au cours de l'une de ses premières prises de parole, d'ailleurs, du club des Girondins, qui traverse une période de crise en ce moment, avec ses supporters et avec un entraîneur également sur le départ. Eh bien, le maire demande le départ des dirigeants. C'est une grande première, Denis Grandjou.
Oui, depuis 1881, année de création des Girondins, aucune trace d'un maire qui demande le départ du président du club de foot. Même Jacques Chaban-Delmas n'avait jamais osé le faire sous l'air du pourtant très sulfureux Claude Bèze. Mais hier, l'écharpe bleu-blanc-rouge autour du cou, Pierre Urmic, le nouveau premier magistrat de la ville, a directement mis en cause Frédéric Longuepée.
Ce que je veux, c'est une nouvelle direction du club des Girondins. Après s'être mis à dos les supporters, je ne souhaite pas que le club des Girondins puisse envisager un instant de se mettre à dos la mairie. Je ne veux pas focaliser le débat sur la personnalité de M. Longuepée. À mon avis, ce n'est pas le seul problème que rencontre actuellement ce club.
Une intervention que personne n'a commentée dans le club où la ligne du service de communication sonne dans le vide depuis de longues semaines, ce qui amène le nouveau maire de Bordeaux à solliciter un rendez-vous urgent avec tous les protagonistes du dossier.
Le président des Girondins, M. Longuepée, également le représentant de la société King Street et également le représentant des Ultramarines avec qui j'ai déjà eu l'occasion de discuter, notamment lors de la manifestation de samedi dernier.
Une manif qui a rassemblé 3000 participants et qui pourrait se renouveler dans les rues de Bordeaux avant le début du championnat.
Merci Denis Grangeau, correspondant RTL à Bordeaux. Un mot de Formule 1 pour terminer. Le Grand Prix d'Autriche, c'est demain, c'est la reprise de la saison. Pour le moment, ce sont les McLaren qui ont été les plus rapides pendant les essais libres devant le pilote Red Bull Max Verstappen. Copie conforme de la saison dernière. Au moins, il y a des choses qui ne changent pas.
Merci beaucoup Olivier Bois. 9h12, Muriel nous dit qu'il y a du soleil à Lisbonne. Bon, on est un peu loin de Lisbonne. Il y aura du soleil pour tout le monde?
Non, pas pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de soleil. On a juste un temps plus nuageux, ce sera le cas toute la journée, entre la Loire-Atlantique et les Ardennes et tous les départements qui sont plus au nord, avec quelques pluies faibles qui vont se produire tout au long de la journée. Une dégradation qui va vraiment rester là dans un premier temps. Au pire, le soleil sera voilé d'ici la fin de l'après-midi, de l'Alsace à la Charente-Maritime. Pour les autres, c'est du ciel bleu. Quelques orages en montagne ce soir sur les Alpes et sur la montagne Corse, et des températures qui iront de 19 degrés à Dunkerque à 34 degrés à Nîmes cet après-midi, comptez 23 à La Rochelle, 25 à Paris, 27 degrés à Lons-le-Saunier et 31 degrés pour Avignon.
Merci beaucoup Valérie, je vous donne les courses.